Ce matin, je vais vous inviter à une lecture dans les Saintes Écritures, dans la Bible, qui se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 11. Les versets 8 à 12. J'espère que vous avez vos Bibles ou de quoi lire. Et de façon globale, qui est la projection ou pas, j'encourage toujours qu'on ait une Bible ou de quoi lire les Écritures. Deutéronome chapitre 11, et là nous allons lire les versets 8 à 12. Deutéronome 11, 8 à 12, où il est écrit « Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Amen. Chez les êtres humains, chez tout être humain, un des besoins le plus essentiel, c'est un besoin d'indépendance. C'est un besoin, mais c'est aussi un processus, puisque tout bébé va naître en étant complètement dépendant de sa mère, dépendant physiquement de sa mère. Il va naître, il va sortir de son sein, il va petit à petit grandir, mais tout en restant dépendant de son environnement, dépendant de ses parents, dépendant des gens qui prennent soin de lui. Et plus les années vont passer, plus il va prendre de l'indépendance et plus il va être capable de faire des choses de façon seule, de façon autonome. Et il y aura tout un ensemble de choses qu'il saura faire par lui-même. Et dans notre vie, comme enfant ou comme adulte, comme personne plus âgée, nous sommes tous en recherche d'indépendance. Nous sommes tous en recherche d'autonomie. Nous sommes tous en recherche de faire ce dont nous avons envie. Nous sommes tous aussi en recherche d'une forme de liberté. Nous avons envie de pouvoir réussir à faire tout seul, sans l'aide de personne. Nous avons envie de pouvoir nous autodéterminer, c'est-à-dire de choisir de façon libre comment nous menons notre vie, comment nous vivons, avec qui nous vivons, à quel endroit nous vivons. Nous avons envie de ne pas dépendre des autres, nous n'avons pas envie de dépendre des autres et nous n'avons pas envie d'être aidés. Nous voulons être libres, nous voulons être autonomes, nous voulons être indépendants. Et dans la relation avec Dieu, avec le Créateur, c'est aussi la même chose. L'homme, en général, voudrait pouvoir être indépendant de Dieu. L'homme voudrait pouvoir se passer de Dieu, pouvoir faire sans Dieu. Et rappelons-nous que c'est en fait une des origines du péché originel. Le péché originel, le péché d'Adam et Ève, c'est le péché de l'indépendance d'avec Dieu. C'est un péché de désobéissance, d'accord, mais c'est aussi un péché d'indépendance. D'ailleurs, le serpent va leur dire « Mais oui, Dieu ne veut pas que vous preniez le fruit parce qu'il sait bien que lorsque vous en mangerez, vous serez comme Dieu, vous serez comme lui. Donc vous n'aurez plus besoin d'être assujetti à Dieu. Vous n'aurez plus besoin de devoir faire comme il vous dit, devoir vous caler à ses ordres puisque vous serez indépendant. » Ainsi donc, le péché originel, c'est aussi un péché de vouloir s'affranchir des commandements de Dieu, d'être son égal et de ne plus dépendre de lui. Et dans la Bible, en réalité, un des mouvements les plus importants, un mouvement qu'on peut observer, c'est qu'en réalité, Dieu appelle ses enfants à la dépendance envers lui. Alors que nous sommes des gens qui voulons être indépendants, Alors que nous sommes des gens qui voulons faire tout par nous-mêmes, par nos propres forces, Dieu, au contraire, veut nous conduire à vivre une relation de dépendance avec lui. Dans la Bible, Dieu veut nous conduire à être toujours plus dépendants de lui et à nous inscrire dans une alliance de dépendance avec lui. Et c'est quelque chose qui n'est pas notre nature. Voilà pourquoi c'est peut-être un peu difficile pour nous. Mais malgré tout, c'est le mouvement dans lequel Dieu nous conduit. Je veux une relation d'alliance avec toi. Je veux que tu dépendes de moi. Je veux que tu dépendes de moi. C'est ce que Dieu nous dit. Et que nous avons parfois, évidemment, du mal à entendre. Dans le texte que nous avons lu, le texte de Deutéronome, livre de la Bible, au même titre qu'Éphésiens, au même titre que Corinthiens, au même titre que... Comme il est écrit, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Nous avons donc à nous arrêter sur des textes de Deutéronome. Nous avons donc à nous arrêter sur des textes de Lévitique. Nous avons donc à nous arrêter sur des textes de Sophonie, parce que c'est la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne lisent plus l'Ancien Testament. Ça paraît tellement ringard. Alors on relit Éphésiens. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Dans le texte que nous avons lu, le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël, il est en train de leur parler de la différence qu'il y a entre l'Égypte et la terre de Canaan. En réalité, c'est une réalité sur laquelle on peut passer très vite, mais ce qui est très profond. Dieu leur explique qu'en réalité, en Égypte, l'Égypte, c'est un pays très peu arrosé. C'est un pays qui est très sec et c'est un pays qui est plat. Et donc, c'est un pays dans lequel il fallait que les enfants d'Israël et que les Égyptiens mettent en place tout un ensemble de techniques pour arroser les terres. Dans un pays où il pleut très peu, où en plus il n'y a pas de dénivelé, ils devaient par eux-mêmes créer des mécanismes pour que les terres aient de l'eau et pour que ce qu'ils sèment dans les terres puissent grandir. Et c'est ce qu'en fait, il leur dit dans Deutéronome au chapitre 11 que nous avons lu, « Tu devais, avec ton pied, arroser les terres. » Ils devaient, par eux-mêmes, irriguer les terres. Ils n'avaient pas d'autre choix que d'être indépendants de la pluie, ils ne s'occupaient pas de la pluie, mais ils devaient par eux-mêmes irriguer les terres. Et une des façons qu'ils avaient pour irriguer les terres, c'est ce qu'on appelle les norias. Alors, et c'est apparemment ce à quoi il fait référence quand il parle des pieds. Alors, un noria, c'est quoi? Ou une noria, c'est quoi? C'est un mécanisme qui est dans l'eau, qui récupère et qui élève l'eau qui est dans un cours d'eau, en particulier en Égypte, c'était le Nil, et qui permettait, au travers de câbles, au travers de tuyaux qu'on mettait en place, que l'eau monte, qu'elle descende dans des tuyaux, et puis qu'elle aille irriguer les terres qui étaient autour des cours d'eau. Et c'est comme ça, en réalité, qu'en Égypte, on faisait pour avoir les terres irriguées. Il y avait les crues du Nil, donc il arrivait que le Nil fasse des crues et qu'au travers de là, les eaux soient arrosées, mais la plupart du temps, ils devaient par eux-mêmes nourrir les terres. Et ce que Dieu est en train de leur dire, c'est que, en réalité, dans le pays de Canaan, ce ne sera pas comme ça. En Canaan, vous ne pourrez pas par vous-même vous débrouiller pour irriguer les terres, parce que Canaan, c'est un pays qui dépend de la pluie du ciel. En Canaan, si on veut avoir des terres qui soient irriguées, si on veut pouvoir avoir des choses à manger, il faut qu'on s'attende de la pluie du ciel. Et en fait, l'Éternel est en train de leur dire qu'ils vont rentrer dans un pays... Ils vont rentrer en terre de Canaan et que dans cette terre de Canaan, ils vont devoir être conscients qu'ils dépendront de Dieu. Alors qu'en Égypte, on pouvait par soi-même se débrouiller pour irriguer ces petites terres, en Canaan, ce n'est pas comme ça. En Canaan, il faut attendre les pluies. Et qui envoie les pluies? C'est l'Éternel. Le pays de Canaan est caractérisé par une fertilité qui dépend entièrement des pluies et donc qui dépend entièrement de Dieu, à la différence de l'Égypte. Et la pluie est un élément sur lequel les hommes n'ont aucune prise. Nous ne savons rien faire pour qu'il pleuve. Vous savez d'ailleurs que dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui se sont tournés vers des faux dieux parce que la pluie, c'est quelque chose qui nous échappe. Alors qu'évidemment, irriguer les terres au travers du Nil, c'était quelque chose qu'ils pouvaient faire. L'homme ne peut absolument rien pour faire tomber la pluie. Alors que la terre d'Égypte dépendait du travail des hommes, que la prospérité en Égypte dépendait du travail des hommes, en Canaan, la prospérité dépendra entièrement de Dieu. Et cette réalité, c'est en réalité un avantage, mais en même temps un inconvénient. L'avantage pour le peuple d'Israël, c'est qu'au pays de Canaan, ils ne devront plus faire tous ces mécanismes pour que l'eau arrive dans les terres, c'est la pluie qui viendra. Mais l'inconvénient, si on veut le voir comme ça pour eux, et c'est ce que le texte nous dit, c'est que puisque ça dépend de Dieu, puisque les pluies dépendront de Dieu, eh bien la prospérité dépendra aussi de leur obéissance à Dieu. Dieu leur dit, si vous obéissez à mes commandements, j'enverrai la pluie. Et vous aurez de la pluie pour vous nourrir et pour avoir la prospérité. Mais si vous n'obéissez pas, je n'enverrai pas la pluie. Et donc, il y a l'avantage de ne pas devoir travailler pour irriguer les terres, mais il y a l'inconvénient que désormais, l'obéissance à Dieu en terre de Canaan est déterminante. Le peuple va devoir veiller au commandement de Dieu, il va devoir se tourner vers la parole de Dieu, il va devoir chercher à plaire à Dieu, sinon il n'aura pas la prospérité qu'il veut. Si le peuple est obéissant à Dieu en Canaan, la pluie vient. Mais si le peuple est désobéissant à Dieu, la pluie ne vient pas. Le texte continue, nous ne l'avons pas lu. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton moût et ton huile, si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu. Pas moyen, donc, pour les enfants d'Israël de dire ben, « nous allons nous débrouiller tout seuls par nos propres moyens pour avoir la prospérité ». On va donc parler de la terre de Canaan comme une terre qui dépend de Dieu, comme une terre qui dépend de la relation que le peuple a avec Dieu et qui dépend de comment le peuple obéit à Dieu. Et on sait que cette dépendance que Dieu veut vis-à-vis de son peuple, il l'a cultivée même pendant les temps dans le désert, lorsqu'ils migraient vers la terre promise. Rappelez-vous que c'était Dieu qui les conduisait par une nuée dans le désert. C'était Dieu qui les conduisait. C'est Dieu qui envoyait la manne pour les nourrir. Dieu a toujours montré sa volonté de que son peuple soit dépendant de lui. Que son peuple ne fasse pas à sa mode, ou ne trouve pas des solutions par ses propres moyens, mais que le peuple de Dieu puisse être un peuple qui dépend de lui. Autre bonne nouvelle concernant le pays de Canaan, c'est dit au verset 12, c'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Oui, effectivement, il faudra obéir. Oui, il faudra veiller sur la relation avec Dieu pour qu'il envoie les pluies. Mais Dieu promet aussi que c'est un pays dont il prend soin, un pays sur lequel il a les yeux du commencement à la fin de l'année. Donc, c'est-à-dire que Dieu veille sur ce pays indépendamment des saisons. Et Dieu fait en sorte que la pluie arrose le pays et que de bonnes récoltes soient possibles. Ainsi, en Canaan, les choses sont différentes qu'en Égypte. En Égypte, c'est-à-dire dans le monde, c'est-à-dire dans ce qui ne nous concerne pas, nous, on se repose sur ses propres forces pour réussir. On se repose sur son travail. On se repose sur son effort. On regarde à ce qu'on est capable de faire nous-mêmes. On essaye de réussir par nous-mêmes. C'est la prétention d'ailleurs de nos sociétés laïques, dites laïques. Notre société a pour projet de faire sans Dieu, de se débrouiller sans Dieu, de fonctionner sans Dieu. Notre société veut enseigner les enfants sans Dieu. Notre société veut penser ses lois sans Dieu. Notre société veut gérer son argent sans Dieu, par nous-mêmes, comme des grands. On va y arriver. En Égypte, c'est-à-dire dans le monde, on construit ses propres mécanismes, ses propres façons de faire pour arriver. On a ces petits trucs, les norias, hein, c'est donc le petit truc qui permet que l'eau arrive sur les terres. Eh bien, en Égypte, dans le monde aussi, on a nos petits trucs, nos petits objets, nos petites procédures pour que tout fonctionne bien par nous-mêmes. On a tant de choses, tant de lois, tant de principes sur terre que l'homme met en place pour ne pas devoir s'occuper de quoi que ce soit de ce que Dieu dit. On va créer nos petits machins, ça va bien marcher et Dieu restera en dehors de tout ça. Alors que pour un enfant de Dieu, pour des enfants de Dieu, l'appel c'est Canaan. Nous sommes appelés à vivre à Canaan. Nous sommes appelés à vivre comme le peuple de Canaan. Et à Canaan, on dépend de Dieu. On s'attend à Dieu. On s'attend à son intervention. On dépend de lui et on sait que sans lui, on ne saura rien faire. À Canaan, on doit faire confiance à Dieu parce que c'est lui qui envoie la pluie. À Canaan, on doit être reconnaissant à Dieu parce que l'on sait que ce qui vient de bon nous vient de Dieu. Ainsi, comme enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Seigneur dans une vie qui dépend de lui, dans une vie où le regard est tourné vers lui. Et pour que les terres soient arrosées, on ne cherche pas ses propres mécanismes à soi, on se tourne vers Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, lorsque le problème de l'arrosage des terres se pose, nous nous tournons vers Dieu qui envoie la pluie du ciel et non pas vers les mécanismes des hommes qui permettent que la pluie puisse, que l'eau puisse irriguer les terres. D'un point de vue concret dans notre vie, nous dépendons de Dieu pour tous ces aspects. Nous nous attendons à Dieu. Nous cherchons Dieu pour notre travail. Nous dépendons de Dieu. Pour notre mariage, nous dépendons de Dieu. Pour notre santé, nous dépendons de Dieu. Pour les décisions que nous devons prendre, nous dépendons de Dieu. Pour nos difficultés, nous nous tournons vers Dieu. Pour nos joies, nous remercions Dieu. Pour nos souhaits, nous demandons à Dieu. En terre de Canaan, nous le peuple de Canaan, nous nous tournons vers Dieu qui envoie la pluie du ciel. Et c'est ce qui fait que la prière a une telle place dans nos vies. Parce que nous savons que cette société veut se débrouiller sans Dieu, mais nous savons que le vrai besoin de l'homme, c'est que les choses lui viennent de Dieu. Nous prions parce que nous savons que la vraie source de notre vie, c'est Dieu. Quelle que soit la façon dont les choses nous arrivent, elles peuvent nous arriver dans des choses très concrètes, nous savons que c'est Dieu qui est derrière. Vous vous rappelez évidemment de cette histoire de ce monsieur qui était sur sa maison et qui voyait l'inondation qui arrivait, c'est pas rien à voir avec ce qui s'est passé, hein, mais donc il voyait qu'il allait périr, il voyait qu'il allait mourir à cause des inondations, et il prie Dieu en disant « Seigneur, je t'en supplie, envoie quelqu'un pour me sauver ». Et voilà qu'il y a un premier bateau qui arrive et qui lui dit « Ben voilà, on peut vous prendre ». « Non, non, ça va, Dieu va me sauver ». Et puis après, les pompiers qui arrivent, « Non, non, ça va, Dieu va me sauver ». Et puis il meurt, il arrive devant Dieu, « Mais ben, je t'ai envoyé des gens pour te sauver ». En d'autres termes, pour nous, enfants de Dieu, même lorsque quelqu'un nous sauve, nous considérons que c'est Dieu qui l'a envoyé vers nous. Même lorsqu'un médecin nous donne le traitement qu'il fallait pour nous guérir, nous considérons que c'est Dieu qui l'a envoyé vers nous. Nous prenons Dieu comme la source ultime de tout bienfait dans notre vie. Parce que nous savons que nous dépendons entièrement de Dieu. Ainsi, nous prions puisqu'il est la source. Nous prions en reconnaissance de notre dépendance envers lui. Nous prions parce que nous croyons qu'il est la source. Nous prions pour demander à Dieu. Nous prions pour remercier Dieu pour les choses qu'il nous donne. Nous prions pour demander à Dieu sa direction. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Nous prions à Dieu, nous prions Dieu pour lui demander de changer notre personne, changer ce que nous sommes. Nous prions Dieu pour qu'il change notre vie. Lorsque nous voulons des choses changent dans notre vie, nous prions Dieu. Nous prions Dieu lorsque nous savons que d'autres ont besoin de son intervention, ce qu'on appelle l'intercession. Nous prions pour les autres. Nous prions Dieu pour le remercier de ce qu'il fait dans le monde. Même lorsqu'on voit que l'épidémie s'arrête, on ne se dit pas « Oh, merci, maître vaccin ». Nous prions pour nous recommander à Dieu. Nous prions pour supplier Dieu, parce que nous savons qu'il est la source de toutes choses. Et cela veut dire aussi que le peuple de Dieu, parce qu'il sait que la pluie vient de Dieu, c'est un peuple qui marche par la foi et non par la vue, c'est-à-dire un peuple qui marche selon la source ultime qu'on ne voit pas et non pas vers les petites techniques humaines qui ont permis que les choses réussissent. Ainsi, pour nous qui marchons avec le Seigneur, nous devons vivre une vie de dépendance à Dieu et accepter cette position dans laquelle il nous met. Cela signifie que nous recevons toutes choses de sa main et que nous le considérons comme la source, l'auteur et le dispensateur de tous les bienfaits. Alors qu'on peut regarder la pluie comme un phénomène purement météorologique, le peuple de Dieu était invité dans ce texte à le voir comme, à l'avoir comme envoyé par Dieu. Ainsi, nous nous confions en Dieu. Et nous considérons que c'est lui qui nous donne la clé dans nos combats. Le psaume 20, verset 7 dit « Ceux-ci, en parlant de ceux qui ne croient pas, s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. » Parce que dans le passage biblique, on sait que c'était souvent des histoires de guerre, ils devaient combattre contre d'autres peuples. Eh bien, certains peuples se confiaient dans leurs chevaux. On dit, on a des bons chevaux, on a des chevaux, on va y arriver. Nous, nous invoquons l'Éternel. Dans notre combat, nous ne pensons pas que ce sont nos forces, notre intelligence, nos capacités qui vont nous permettre de réussir, mais nous nous confions en Dieu. Nous l'invoquons parce que c'est lui qui donne la victoire. Et rappelez-vous que dans le texte de Josué, par exemple, dans le livre de Josué, Dieu montre en fait au peuple que quand sa relation avec Dieu est bonne, il vainque. Ils réussissent, ils sont vainqueurs. Mais quand leur relation avec Dieu n'est pas bonne, alors ils sont perdants. Et Dieu montre par là que c'est lui qui leur donne la victoire. Dans la Bible, il y a des moments où le peuple d'Israël a gagné en étant largement inférieur à ses ennemis, largement inférieur. Et Dieu montrait par là que c'était lui, celui qui donne la victoire à son peuple. On peut se dire, j'ai de l'argent, donc ça ira. On peut se dire, j'ai des relations, j'ai le bras long, comme on dit. J'ai le bras long, donc ça ira. On peut se dire, je suis fort physiquement, mentalement, donc je vaincrai. Mais nous, nous nous disons que si les choses vont, c'est à cause de Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est à cause de sa grâce. Tant d'hommes et de femmes dans notre société qui se croient forts, qui se reposent sur leur force, sur leur argent, sur leur capacité, mais qui oublient qu'il y a certaines choses qui ne dépendent que de Dieu. Luther disait, dans sa confession de foi, Martin Luther disait, « Je crois que Dieu m'a créé ainsi que toutes les autres créatures. Il m'a donné et me conserve mon corps avec ses membres, mon esprit avec ses facultés. Il me donne chaque jour, libéralement, la nourriture, le vêtement, la demeure et toutes les choses nécessaires à l'entretien de cette vie. » Voilà ce que je crois. Je crois que toutes ces choses me viennent de Dieu et je crois que c'est lui qui nous fait grâce. Je place ma confiance en Dieu pour que tout se passe bien. Je place ma confiance en Dieu pour vaincre. Ésaïe 31, verset 1 nous dit « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et qui se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne cherche pas l'Éternel. Malheur à ceux qui placent leur confiance dans la force des cavaliers, qui placent leur confiance dans la multitude des chars, et qui ne regardent pas à l'Éternel. » Que Dieu nous aide à ne pas être ce genre de personne qui place notre confiance dans les choses que nous avons, dans les choses qui sont sur terre, mais que nous soyons de ceux qui placent notre confiance en Dieu. Le psaume 33 nous dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros, mais c'est l'Éternel. » Comme enfants de Dieu, nous ne considérons pas que la force est dans nos ressources, mais nous attendons nos ressources de Dieu, parce qu'il est la source de toutes choses. Dans la recherche d'un conjoint, Nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous ne cherchons pas comme les non-croyants, mais nous cherchons comme des personnes qui placent leur confiance en Dieu et qui savent qu'il peut nous envoyer la bonne personne au bon moment parce qu'il est la source de notre vie. Dans la recherche d'une subsistance matérielle, nous obéissons à Christ qui nous dit de ne pas nous inquiéter car il prend soin de nous, parce que nous savons qu'il est la source. Dans la recherche du bonheur, nous ne cherchons pas à nous aligner aux valeurs de la société pour avoir le plus de plaisir possible, mais nous savons que notre bonheur est dans l'obéissance à Dieu. Et rappelez-vous cette citation qu'on avait donnée il y a quelques années, vous avez oublié. Le chrétien n'est vraiment heureux que lorsqu'il fait la volonté de Dieu. Un chrétien n'est vraiment heureux que lorsqu'il fait la volonté de Dieu. Oh, hier, à la gare centrale, à Bruxelles, sur le quai, attendant le train, je vois deux jeunes hyper cool, hyper à l'aise, hyper tranquille. Et ils étaient là, c'était une fille et un garçon, et la fille, elle avait une casquette, et le garçon, il était là, il avait des cheveux un petit peu teints, et il rigolait, et « Ah ouais, je vais mettre ta photo sur Insta, ah ouais, je vais mettre ta photo sur Snapchat », et il rigolait, et il s'amusait. Et puis je regarde la fille correctement, et je vois qu'elle tient en main une Bible. De façon claire, on voyait que c'était une Bible. Elle était là sur le quai de la gare face à tout le monde, portant une Bible en main. Je me suis dit, l'Évangile continue sa course. La parole de Dieu continue sa course. Il y a encore aujourd'hui des jeunes qui placent leur confiance en Dieu pour leur vie et qui mettent la parole de Dieu au cœur de leur vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors évidemment, j'ai été là par les professeurs. Et ce à quoi elle m'a répondu, mais oui, monsieur, nous sommes la nouvelle génération. Et nous pouvons, voilà. Comme quoi, on peut être cool aussi. Et avoir sa Bible. Hein, avoir sa Bible en main devant tout le monde. Dans la recherche du bonheur, nous nous confions en Dieu. Dans la recherche de la paix au milieu des tribulations, nous demandons à Dieu sa paix. Parce que nous savons qu'il peut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Dans la recherche de la force pour avancer, nous nous confions en Dieu. Parce que nous savons que la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Nous nous confions en Dieu. Le psaume 127 nous dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Tout ce que nous faisons sans Dieu, tout ce que nous faisons indépendamment de Dieu, est voué à l'échec. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, gardent en vain. Pour conclure, la position en Égypte des Égyptiens était quelque part une position de facilité. Non pas que ce soit simple d'acheminer les eaux du Nil vers les terres, ce n'était pas quelque chose de simple, mais en tout cas, ils ne devaient pas se préoccuper de l'obéissance à Dieu pour avoir des terres fertiles, puisque par eux-mêmes, ils savaient le faire. On sait que les Égyptiens avaient leur dieu, et que même le Nil était un de leurs dieux, mais en tout cas, il y avait un élément qui n'était pas central en Égypte, c'était l'élément de la relation avec Dieu. Alors qu'en Canaan, ce que le texte nous enseigne ici, c'est que la relation avec Dieu va devenir quelque chose de central pour le peuple. Si vous voulez avoir de la pluie, vous devez m'obéir, c'est ça que Dieu leur dit. Et dès lors, leur relation avec Dieu devient quelque chose de central dans leur vie, quelque chose de central dans leur existence. Ce que le texte nous dit, c'est que dans la gestion de leur vie en Canaan, le peuple devra veiller avant tout à sa relation avec Dieu. Ne vous occupez pas d'abord de vos récoltes, de vos semences, occupez-vous d'abord de votre relation avec moi, parce que c'est moi qui vais envoyer la pluie, qui va permettre à tout de se développer. Ils ne devront pas d'abord s'occuper des terres, de l'agriculture, des techniques de semences, des techniques de récolte. Ils devront surtout s'occuper de leur relation avec Dieu. Ils devront surtout s'occuper de leur alliance avec Dieu, leur relation avec Dieu. de ce que Dieu leur dit, de ce que Dieu attend d'eux. Ce sera la priorité pour leur réussite en Canaan, pour leur prospérité en Canaan. Et pour nous aussi, enfants de Dieu, la question de notre relation avec Dieu doit être une priorité première. Dans notre vie, notre relation avec Dieu doit être une priorité première. Avant de nous occuper des choses matérielles et des choses qui sont autour de nous, nous devons nous occuper de notre relation avec Dieu. Parce que tout dépend de là. Avant de nous occuper de nos factures, occupons-nous de notre relation avec Dieu. Avant de nous occuper de nos projets, occupons-nous de notre relation avec Dieu. Avant de nous occuper de nos amis, occupons-nous de notre relation avec Dieu. Avant de nous occuper de nos hobbies, de nos plaisirs, occupons-nous de notre relation avec Dieu. Avant même de nous occuper de nos collègues, de notre mariage, de notre pension, occupons-nous de notre relation avec Dieu. Parce que c'est lui qui envoie la pluie, qui permet à notre mariage, à nos relations, à nos finances d'être en bonne santé. Et c'est quand notre relation avec lui est au beau fixe que nous pouvons gérer correctement notre argent, gérer correctement nos projets, que nous pouvons avoir des amitiés saines, que nous pouvons donner la bonne place à nos hobbies, que nous pouvons avoir une bonne relation avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos collègues. Les non-croyants ne s'occupent pas de leur relation avec Dieu. Ils réussissent très bien sans. Mais pour nous, enfants de Dieu, peuple de la terre de Canaan, notre relation avec Dieu doit être centrale dans notre vie, première. Et nous devons veiller là-dessus avant de veiller sur tout le reste. Parce que tout dépend de là. Pour conclure, réalité que Jésus va nous enseigner. Jésus confirme toutes ces choses dans Jean chapitre 15, versets 4 à 16. Lorsqu'il insiste sur la dépendance du croyant envers lui, la dépendance du peuple de Dieu, où il est dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous et je vous ferai porter beaucoup de fruits et j'accorderai à votre vie la prospérité. C'est dans notre demeurance, notre attachement à lui, notre obéissance, notre fidélité, notre communion avec lui, que réside toute possibilité de réussite pour notre vie. Un des premiers effets de la conversion, c'est que le Saint-Esprit réalise entre le croyant et le Christ une union. Le Saint-Esprit unit le croyant à Jésus-Christ. Prenons donc soin de cette alliance. Prenons donc soin de cette relation, parce que tout dépend de là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.